Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Et donc satisfaisons-nous de ce qu'on a, d'un rayon de soleil, de sourire d'un ami, d'un bon livre qu'on peut lire, d'une musique qu'on aime. Et tous ces petits plaisirs du quotidien, si on les savoure pleinement, eh bien finalement on s'aperçoit que c'est pas la peine de se prendre la tête avec un tas de choses. Plein de petites choses peuvent nous rendre heureux au quotidien et relativisons les choses. On a des problèmes, mais il y a eu bien pire dans le passé, il y a bien pire ailleurs. Et pourtant, les gens qui sont dans le bien pire ailleurs, des fois arrivent à être très heureux. Ça veut dire que le bonheur, il est en nous. C'est dans le regard qu'on porte sur le monde.
Chacun, sûrement, tente de changer le monde à sa manière. Avec des sourires, des partages, de l'art, de l'amour, des projets, des actes au quotidien. Frédéric Lenoir, lui, est convaincu que s'il y avait de la philosophie dans toutes les écoles, le monde serait changé en une génération. Alors à coup de citations philosophiques, il partage sa quête du bien-être et démocratise auprès du grand public ce que l'on entend par ce fameux développement personnel. Et pour cause, il va jusqu'aux classes de primaire pour partager son savoir, pour partager sa sagesse et ses mots d'espoir qui nous guident vers un bonheur vrai et durable. Il pense le monde d'aujourd'hui et les moyens de l'améliorer en puisant son inspiration chez Bouddha, Épicure, Spinoza, Nietzsche, Sartre et dans la vie qui l'entoure. Il synthétise tout ça et en écrit des livres, beaucoup de livres. Il est aujourd'hui auteur d'une cinquantaine d'ouvrages qui explorent le bonheur, les religions, la liberté, la spiritualité et la philosophie dans son ensemble. Le Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir a été mon premier livre de développement personnel. Le premier d'un pan de mur de ma chambre aujourd'hui. J'avais 15 ans et Frédéric Lenoir a un peu été mon papa spirituel en secret. Alors je vous laisse imaginer l'immense joie que j'avais de pouvoir le rencontrer. Et l'immense joie que j'ai aujourd'hui de vous partager quelques-unes de ses pensées. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour Victoria.
Alors j'ai énormément de gratitude de pouvoir être chez vous aujourd'hui pour vous donner la parole sur Nouvel Œil. J'ai commencé à m'intéresser à vos livres à l'âge de 15 ans, en commençant par le Petit traité de vie intérieure. Et j'ai aujourd'hui un pan complet de ma bibliothèque où j'ai presque tous vos livres qui sont rangés. Donc vous avez très largement contribué à mon éveil sur plein de sujets. Et je suis juste émue de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc je vais commencer par vous laisser vous présenter, tout simplement.
Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un être humain, citoyen de la planète Terre. Et puis, j'essaye, depuis que je suis enfant, de chercher des réponses aux grandes questions. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Enfin, ces questions existentielles m'ont toujours passionné. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qui se les posent jamais. Ou qui se disent, comme il n'y a pas sans doute de réponses certaines, bah, autant être que dans des choses concrètes. Et non, moi, j'ai besoin d'essayer de comprendre, hein, qu'est-ce qu'un être humain et est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on est libre? Enfin, toutes ces questions m'ont passionné. C'est pour ça que je me suis orienté très tôt vers la philosophie. Après, plus tard, j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais compris aux autres et notamment aux jeunes. Donc, ça me fait très plaisir quand vous me dites qu'à 15 ans, vous avez lu mes livres, parce que c'est vrai que j'ai écrit des livres que j'aurais aimé moi-même pouvoir lire quand j'avais entre 15 et 20 ans. C'est un âge où on commence à vraiment former sa pensée personnelle. C'est pour ça que j'écris beaucoup de livres sur le sens de la vie, le bonheur, se connaître soi-même, qui sont au carrefour entre la philosophie, la psychologie, l'histoire et puis la spiritualité.
Fabuleux. Donc vous avez toujours eu cette curiosité intellectuelle, ce besoin de comprendre le monde qui vous entoure. Elle ressemblait à quoi votre enfance ?
Alors c'était un peu compliqué mon enfance parce que à la fois j'avais des conditions très favorables parce que j'étais une famille plutôt aisée, on vivait à la campagne, mon père avait des grandes responsabilités, il a été secrétaire d'État pendant 4 ans, mais il voulait que ses enfants soient élevés à la campagne, ce qui fait qu'on vivait à 1 heure de Paris dans un petit village de l'Essonne qui s'appelle Dourdan, mais c'était formidable parce que du coup j'étais dans la nature tout le temps avec un beau jardin, une petite rivière au bout du terrain, au milieu de la forêt, enfin c'était formidable. Et puis des parents très cultivés. Ma mère était codicologue, c'est-à-dire spécialiste des codex médiévaux. Mon père donc haut fonctionnaire, mais passionné de philosophie. C'est lui qui m'a mis mon premier livre de philo dans les mains quand j'avais 13 ans. Donc ça, c'était très favorable. Ce qui était plus difficile, c'est que c'était des parents qui s'entendaient pas du tout. Donc il y a une ambiance très très délétère à la maison. Mon père était malheureux, très violent, très agressif. Et puis ma mère plutôt un peu soumise. Et donc c'était vraiment très compliqué. Et ce qui fait que j'ai eu après une adolescence chaotique au niveau de ma vie affective. Et il m'a fallu beaucoup de temps, de thérapie, de travail sur moi pour trouver un équilibre intérieur. J'ai commencé par un chaos intérieur et puis de ce chaos est né un cosmos, c'est-à-dire un ordre intérieur, mais il a fallu vraiment faire un travail sur moi et je le regrette pas du tout. Je me dis finalement c'est une chance parce que si j'avais une famille où tout allait bien, peut-être j'aurais jamais fait ce travail sur moi, mais là le fait d'avoir eu un peu cette instabilité et puis cette souffrance intérieure fait que j'ai fait tout un travail justement de cheminement pour essayer de me connaître, pour essayer de me construire ou de me reconstruire et ça m'a apporté beaucoup de clés pour mieux comprendre la vie et puis pour être plus en relation empathique avec les autres parce que quand on a soi-même vécu des souffrances intérieures, on est beaucoup plus empathique par rapport à ceux qui souffrent et ce qui fait que ça m'a toujours rendu très sensible et très proche finalement des autres. Et puis également, quand je dis des autres, c'est à la fois les humains, mais les animaux aussi. J'ai une grande sensibilité par rapport à tous les êtres sensibles. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, je mène aussi un combat pour essayer qu'on fasse moins souffrir les animaux.
Quels étaient vos rêves quand vous aviez 20 ans ?
Alors, je rêvais, adolescent, je rêvais d'être cinéaste. Puisque j'adore le cinéma, je suis un passionné de cinéma. Puis après, je suis parti dans des études, j'ai fait des études de philosophie, de sociologie, des religions. Je suis parti dans autre chose. Et puis, c'était compliqué de tout arrêter pour aller faire des études de cinéma. Enfin, je dirais que j'ai un peu oublié mes rêves pour partir dans quelque chose qui m'a passionné quand même, parce que c'était les grandes questions que je me posais dans la vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien revenir vers le cinéma à partir de tout ce cheminement que j'ai fait. Et il y a des projets en cours d'ailleurs, mais c'est très long le cinéma. Puis en ce moment, avec la crise qu'on vit, c'est pas le moment idéal pour... Mais je suis sur des projets de films et j'espère que ça se fera un jour. Parce que c'est vrai que j'aimerais dire tout ce que je pense à travers ma compréhension de la vie, mais de manière accessible par l'émotion aussi, pas que par la raison. Dans les livres, on est beaucoup dans la raison. Et donc, essayer de le dire aussi avec des images, avec de la musique. Et donc, je trouve que le cinéma, c'est un art très complet. Et j'aimerais bien, un jour, au moins faire un film.
Où est-ce que vous avez cultivé cet amour de la philosophie ?
En fait, mon père m'a mis le Banquet de Platon. Oui. C'était un livre assez simple. Ce sont des philosophes qui se réunissent autour d'un banquet pour parler de l'amour. Et donc, chacun va dire ce qu'est l'amour pour lui. Et c'est très intéressant parce que c'est une forme littéraire orale, sont des dialogues. Et du coup, à 13 ans, je suis rentré dedans et j'ai lu ensuite tous les livres de Platon, enfin surtout les dialogues socratiques. Puis après, j'ai lu les stoïciens, c'est facile à lire. Là, je le dis comme ça, mais pour des jeunes qui nous écoutent, lire par exemple le manuel d'Épictète, c'est vraiment très accessible et ça donne beaucoup de pistes pour comprendre la vie. Donc mon expérience de la philosophie, elle a commencé par des lectures de livres de philosophes de l'Antiquité essentiellement. Puis après, j'ai découvert d'autres philosophes comme Montaigne ou Spinoza, qui sont des philosophes un peu plus durs à lire. Montaigne, c'est à cause de la langue, et Spinoza, c'est parce qu'il est très conceptuel. Mais ça m'a éclairé et enrichi profondément ma vision du monde. Puis après, la philosophie, c'est pas que lire les philosophes, c'est important, mais c'est aussi la compréhension que soi-même on développe de l'existence. Donc j'ai développé ma propre compréhension de l'existence, donc je me suis forgé ma philosophie, mais qui est très proche, évidemment, de celle de grands philosophes qui m'ont inspiré.
Je pose souvent la question du bonheur à mes invités. Et je crois que vous êtes la personne qui pourra le mieux en parler ici, parce que vous avez traité ce sujet en long, en large et en travers. Et votre livre du bonheur, un voyage philosophique, a fait le tour du monde. Alors qu'est-ce qui nous rend heureux ?
Je crois que déjà la première chose pour être heureux, c'est d'être soi-même. puisque nous avons tous une nature singulière, on est tous différents, et que ce qui nous rend heureux, c'est l'expression de notre nature singulière. Or, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que des fois, on est vraiment déformé par l'éducation qu'on a reçue, ce que nos parents nous ont dit. Par exemple, si on a entendu dans son enfance qu'on vaut rien, on va penser qu'on vaut rien, on sera malheureux toute sa vie à cause de cette croyance. Si on avait un père qui voulait nous orienter vers son métier alors qu'on n'est pas fait du tout pour ça, on sera pas du tout dans notre voie. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment, comme dit Socrate, connais-toi toi-même. C'est se connaître, savoir quelle est notre nature et ce qui nous épanouit. Et donc, faut enlever, je dirais, se délier de toutes les fausses croyances, les fausses idées, la méconnaissance qu'on a de soi à travers ce qu'on a reçu dans notre culture, dans notre éducation, dans notre environnement. Et ça, pour certains, c'est facile parce qu'ils ont toujours été très connectés à eux-mêmes. Pour d'autres, c'est un travail beaucoup plus long et c'est un travail qui peut durer toute une vie. Je connais encore des gens à 50 ans, ils sont pas eux-mêmes. Ils découvrent que, en fait, ils sont mariés très jeunes, mais c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire ou avec la bonne personne. Ils ont fait un métier qui n'est pas le leur, etc. Donc, il y a vraiment un travail qu'on appelle d'individuation, c'est-à-dire se connaître comme individu et exprimer sa nature. C'est la première chose. Et puis, je dirais, la deuxième chose, c'est d'apprendre à dire oui à la vie. C'est-à-dire, la vie, vous savez, on maîtrise pas grand-chose. Il y a des choses qu'on peut maîtriser, mais ce qu'on peut le mieux maîtriser, ce sont nos émotions, c'est-à-dire nos réactions par rapport aux événements de la vie. Et il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. En ce moment, on vit une crise du Covid, on choisit pas, on perd des libertés, on choisit pas un tas de choses. Dans la vie, il y a un tas d'événements, des maladies, des deuils qui nous surviennent, on les a pas choisis. Et la volonté des autres, on peut pas, elle s'impose parfois à nous. Par contre, on peut choisir, et c'est la plus grande liberté qu'on a, de réagir de telle ou telle manière face aux événements extérieurs qu'on n'a pas choisis. Et donc, je dirais que ce qui nous rend heureux, c'est de dire oui à la vie, c'est-à-dire d'accepter ce qu'on peut pas changer. Si vous tombez malade et puis que non seulement vous avez la souffrance de la maladie, mais en plus vous avez la colère d'être malade et vous allez rajouter de la souffrance morale à la souffrance physique. Et donc le fait d'être en colère contre la vie quand il vous arrive une épreuve ou que quelque chose ne va pas dans le sens de votre volonté, vous allez souffrir deux fois plus. Donc le bonheur, une des clés du bonheur, c'est l'acceptation. C'est-à-dire lorsque je peux pas changer quelque chose. Mais c'est pas la soumission, c'est pas le fatalisme. Lorsque je ne peux pas changer quelque chose, eh bien à ce moment-là, l'accepter joyeusement plutôt que de lutter contre le réel. Donc accepter le réel comme il est, lorsqu'on ne peut pas le changer. Je précise toujours, parce que des fois on peut changer les choses et tant mieux. Lorsqu'on ne peut pas le changer, l'accepter joyeusement. Et du coup, vous découvrez que ça vous met dans des joies profondes, puisque on est dans une acceptation de la vie et c'est tous les grands courants spirituels philosophiques, depuis les stoïciens, Épicure, Socrate, jusqu'à Nietzsche, nous disent la même chose. C'est que le bonheur, la joie d'ailleurs, plus profond, parce que le bonheur c'est un état d'être, mais la joie c'est une émotion de satisfaction très puissante, vient de cette acceptation profonde de la vie, et pas simplement aimer ce qui est agréable, mais aimer toute la vie avec ses hauts, ses bas, ses moments tristes, ses moments joyeux, et c'est dans ce concert de la vie avec toute cette gamme d'émotions, si on l'accepte pleinement, à ce moment-là, on sera vraiment heureux, c'est-à-dire dans un état d'être plein de satisfaction de l'existence.
Donc vous disiez qu'un des premiers facteurs de notre bonheur, c'était de réussir à être soi-même et que ça prenait parfois toute une vie. Est-ce que vous avez des petits conseils pour nous aider justement à être nous-mêmes, surtout à cet âge-là où on ne sait pas qui on est ?
Je crois que le plus important, c'est l'introspection, c'est-à-dire de s'observer. De s'observer, de dire, tiens, pourquoi là j'ai des colères? Pourquoi là, cette situation ou tel type de rencontre ou tel type de personne me mettent systématiquement dans un état de tristesse ou de colère? Puis on s'aperçoit souvent que les gens qui nous mettent dans des émotions fortes, il y a un miroir avec eux. Ils nous ressemblent d'une certaine manière. Ou il y a quelque chose chez eux qu'on ne supporte pas chez nous. Donc, très souvent, observer ces émotions, ces réactions, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous met dans la tristesse. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à se connaître. C'est vraiment de l'introspection, de l'observation. Et puis, évidemment, si on s'aperçoit que il y a des problèmes, il y a des blocages, il y a des situations, on n'arrive pas à en sortir seul, demander de l'aide. Et l'aide, ça peut être des amis, des vrais amis peuvent avec une grande franchise nous aider à nous connaître parce que ils sont plus extérieurs à nous, donc ils ont plus d'objectivité. Et puis on peut aller voir des thérapeutes. Moi, j'ai pas hésité dès l'âge de 20 ans, j'ai été voir peut-être pas 20 ans mais 25 ans. J'ai commencé à aller voir un psy, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais besoin d'une personne neutre pour m'accompagner dans ce travail, et puis de travailler aussi sur mes émotions. Donc je crois que la connaissance de soi, c'est essentiellement l'introspection aidée par le regard d'autrui.
Et au contraire, qu'est-ce qui pourrait nous rendre malheureux ?
C'est très facile, c'est ne pas être soi-même, ouais. C'est subir le regard des autres, c'est-à-dire être influencé toute sa vie par le regard des autres, et ça peut continuer parce qu'on peut toute sa vie rechercher la reconnaissance, par exemple, alors que faut apprendre à se satisfaire, à être heureux avec soi-même. Vous savez, il y a une phrase de Montaigne que j'aime beaucoup, il dit j'ai appris à avoir de l'amitié pour moi-même. Je trouve ça merveilleux, avoir de l'amitié pour soi-même. C'est un sentiment tendre, avoir de la tendresse pour soi et ne pas vivre toujours dans la tyrannie du regard des autres et attendre son bonheur finalement des autres, de leur approbation, de leur amour. Oui, on a besoin d'amour, mais apprendre aussi à s'aimer soi-même et avoir une qualité de relation avec soi-même qui fait que finalement on est autonome, on est bien avec soi-même. Et puis bien sûr, on se construit aussi dans le regard des autres quand on est enfant, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut pas continuer toute sa vie de se construire dans le regard des autres. Je pense que c'est très important de ne pas se comparer. À un moment donné, c'est nécessaire, mais après, faut en sortir et arrêter de se comparer, arrêter de vivre dans une vie de compétition et être plutôt dans une vie, je dirais, de communion, de collaboration. On travaille ensemble, on progresse ensemble, plutôt que de voir toujours les autres comme des rivaux.
C'est difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux de ne pas se comparer justement.
Sans doute. Alors moi, j'utilise pas les réseaux sociaux comme oui. Beaucoup de jeunes les utilisent. Moi, j'ai une page Facebook ou Instagram dans laquelle je transmets des choses, mais je suis pas là pour me montrer en train de faire ci, en train de faire ça. Donc, mais je sais que beaucoup de jeunes, oui, ils essayent de se montrer sous leurs meilleures images, leurs meilleurs visages, à travers des images, des photos, des choses où ils se valorisent et puis ils ont l'impression comme ça qu'ils donnent une image positive d'eux-mêmes. Donc, c'est évident que ça favorise ce monde de l'apparence finalement. Mais pas uniquement. Peut-être qu'on peut faire un usage des réseaux sociaux différent. Hein. Vous savez, moi, je crois que tout est une question d'usage. Pour moi, il n'y a rien de négatif et les réseaux sociaux, c'est ni positif ni négatif. C'est tout dépend de l'usage qu'on en fait, de la manière qu'on les utilise et surtout, je pense, pas passer trop de temps devant les écrans. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je vois quand même énormément de jeunes qui passent mais plusieurs heures par jour sur les écrans. Ils sont connectés tout le temps avec leurs amis. Alors c'est des toutes sortes. Ils s'envoient un tas de messages, de photos, de machin, mais toute la journée, dès qu'ils ont un peu de temps libre. Et là, je trouve ça dommage parce que d'abord, je pense que le cerveau humain est saturé, c'est-à-dire que ça crée quand même une addiction. On le sait aujourd'hui, hein, il y a une addiction à tous ces modes de communication. Et puis c'est du temps en moins qu'on passe avec ses vrais amis à côté, à faire des choses, à regarder la nature, à se promener, à écouter de la musique, à lire des livres, etc. Et donc là, évidemment, je suis inquiet du temps passé sur ces réseaux sociaux, et des fois c'est très futile. Donc ça nous apporte du plaisir immédiat, mais ça nous empêche peut-être d'aller vers des joies plus profondes.
Justement, on va parler de joie. Vous avez écrit un best-seller, La puissance de la joie. Comment on la cultive, cette joie de vivre, et à quoi elle est liée?
Alors, la joie ne se décrète pas. Le plaisir se décrète, c'est-à-dire vous dites, tiens, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Alors si vous aimez le café, vous prenez un café, vous aimez fumer, vous fumez une clope, vous allez justement sur vos réseaux sociaux, vous faites un petit plaisir. Alors, et vous êtes sûr que ça va marcher. Vous aimez le chocolat, vous prenez le chocolat, ce sera toujours du plaisir. La joie, ça se décrète pas. Vous pouvez pas dire, je vais me faire une petite joie. Non, ça marche pas. La joie, elle vous tombe dessus. Ça vous arrive d'un coup, boum, et ça vous prend tout, c'est-à-dire tout votre être, votre cœur, votre esprit, votre corps. D'ailleurs, on saute de joie, on bondit. La joie, c'est une émotion qui est comme une grâce, ça nous tombe dessus. Alors après, la question, si on peut pas décréter la joie, la produire par soi-même, évidemment, on peut cultiver un terrain favorable à l'émergence de la joie. Et là, il y a quelques petites choses. Bah déjà, être soi-même. Le fait de travailler à être soi-même, on sera de plus en plus dans la joie. Parce que chaque fois qu'on fera des choses qui nous correspondent, ça nous mettra dans la joie. Savoir trouver les bonnes relations. Quelles sont les personnes qui nous mettent dans la joie? Il faut distinguer les personnes toxiques pour nous des personnes qui nous mettent dans la joie. Et là, il y a vraiment un travail aussi à faire. Parce que très souvent, inconsciemment, on va rechercher à se lier à des personnes toxiques pour nous parce que ça nous rappelle notre père, notre mère, etc. Des relations toxiques qu'on a eues dans l'enfance. Et donc, première chose, avoir du discernement pour se connaître et choisir bien notre relation. L'autre chose, c'est d'être présent, c'est-à-dire être dans l'instant. Si vous vous promenez dans la nature, regardez, là, il y a un soleil magnifique et tout. Si vous vous promenez, que vous levez les yeux, eh ben, vous pouvez avoir des joies immenses à regarder la beauté du monde. Mais si quand vous vous promenez, que ce soit dans la rue d'ailleurs ou dans la nature, et puis que vous êtes préoccupé par tous les soucis que vous avez en tête, vos impôts que vous n'avez pas payés, vos soucis de travail, d'étudiant, vous n'avez pas rendu votre... Et ben à ce moment-là, vous aurez aucune joie. Et donc la joie demande de la disponibilité, c'est-à-dire d'être présent, d'être dans une qualité de présence et d'attention à soi-même, aux autres et au monde. Parce que comme ça, vous allez être ouvert, vous allez croiser un visage dans la rue qui va vous faire un sourire, ça va vous mettre dans la joie, etc. Donc la disponibilité. Et puis après, je pense que la bienveillance met dans la joie. Le fait d'être bienveillant, de souhaiter le bonheur des autres, ça met beaucoup plus dans la joie que l'inverse. La malveillance, c'est-à-dire souhaiter le malheur des autres ou se réjouir que, bah, comme vous êtes dans la compétition, bah, qu'ils échouent, que vous avez un collègue qui est viré, etc. Ça donne des petits plaisirs, vous savez, des petits plaisirs mesquins, mais jamais de grandes joies. Les grandes joies, elles viennent au contraire qu'on se réjouit du bonheur des autres. Voilà, on pourrait faire la liste, il y a plein de choses, mais c'est important de, on pourrait dire aussi cultiver la gratitude. Moi, je sais que j'ai appris depuis longtemps à dire merci à la vie, mais toute la journée. Dès que je vois un rayon de soleil, je dis merci, que j'ai une bonne nouvelle, je dis merci, il m'arrive quelque chose de positif, je dis merci, je rencontre une belle personne, je dis merci. Et du coup, le fait d'être en gratitude dans la vie, et je sais pas qui se dit merci, hein, peu importe, hein, c'est à la vie, à l'univers, à Dieu, peu importe le nom qu'on met derrière, mais on dit merci à la vie. Et là, ça nous met dans joie. C'est-à-dire que le fait d'être dans la gratitude met dans la joie.
Qu'est-ce qui fait que, face à une même situation, certaines personnes vont adopter des comportements optimistes et d'autres négatifs ?
Alors, ça vient beaucoup du tempérament. Il y a des gens qui voient le verre toujours à moitié vide et d'autres à moitié plein. Et donc, là, il y a des tempéraments, des sensibilités qui sont plus optimistes ou plus pessimistes. Et ça dépend de vraiment de beaucoup de paramètres, mais c'est pas facile de changer ça. Alors, évidemment, on peut le faire. On peut travailler sur soi si on a, par exemple, un tempérament plutôt pessimiste, qu'on est toujours anxieux, on peut travailler sur son anxiété, c'est certain. On peut faire un travail où en étant vigilant, on se dit non, je vais pas arrêter, je vais pas penser tout le temps négativement, parce qu'on sait qu'on connaît l'importance des pensées. Le fait de développer des pensées négatives ou anxiogènes, bah ça crée plus d'événements négatifs. C'est un impact négatif sur notre vie. Donc si on prend conscience de ça, eh ben faire l'effort de développer des pensées positives, ou en tout cas de pas se laisser développer des pensées négatives. Donc je vais à un examen, ne pas dire c'est sûr je vais échouer, voilà. C'est la base, hein. C'est tous les sportifs de haut niveau, les compétiteurs et tout font de la pensée positive, c'est-à-dire qu'ils font des exercices de sophrologie quand ils se visualisent en train de gagner, ils disent je vais réussir. Eh bien faisons la même chose, c'est-à-dire même si on a un tempérament, une sensibilité plutôt pessimiste, développons des pensées plutôt optimistes et positives pour mieux atteindre nos objectifs finalement, et puis on s'apercevra que ça nous rendra aussi plus heureux, parce que c'est vrai que d'essayer de voir toujours le bon côté des choses, ça nous rend plus heureux que de voir toujours le mauvais côté.
Vous avez écrit pendant le confinement et vous avez sorti le livre « Vivre dans un monde imprévisible ». Alors comment on fait pour vivre dans un monde imprévisible ?
Bah déjà on apprend à lâcher prise, c'est-à-dire à ne pas vouloir tout contrôler. Et donc on accepte de sortir de notre zone de confort dans lequel bah notre monde on l'a construit en fonction de ce qui nous rassure, de ce qui nous apporte du plaisir, etc. Mais d'un coup tout est bousculé. Et puis voilà, bah il y a le Covid, et puis demain il y aura peut-être d'autres catastrophes écologiques, et puis on sait qu'on va dans un monde qui va être de plus en plus chaotique et imprévisible. L'accepter, ne pas être en colère contre ça, et se dire comment je vais être dans une souplesse pour m'adapter en permanence. Et la qualité d'adaptation, c'est essentiel à la vie. C'est-à-dire qu'au fond, l'être humain, il a d'ailleurs, c'est une de ses grandes forces, hein, c'est qu'il a une très grande capacité d'adaptation. Eh bien, il faut qu'on apprenne à développer très jeune, très vite, cette capacité à s'adapter, à rebondir, à trouver des solutions. Et regardez qu'on a été confiné, il y a des gens, moi, qui l'ont mal vécu, il y a des gens qui l'ont bien vécu en se disant, bah, je vais m'adapter. Et puis, on développe l'humour. L'humour, c'est une grande qualité pour, c'est une force d'adaptation, l'humour. C'est-à-dire que, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que le destin nous est difficile, il y a quelque chose qui pourrait être tragique, mais on prend du recul avec l'humour et on en rit. Et le fait d'en rire, regarder toutes les petites vidéos qu'on s'est envoyées pendant le confinement, bah c'était à pisser de rire. Et du coup, le fait de rire, ça nous permet de mettre de la distance et du coup, de mieux s'adapter, de mieux vivre les événements difficiles. Donc voilà, s'adapter. Vous savez, les Chinois, là, je cite souvent dans mes ouvrages le taoïsme, qui est un courant philosophique chinois, qui nous dit que la plus grande qualité pour être heureux, c'est la souplesse. Être souple. Comme le roseau, vous voyez, qui lorsqu'il y a de la tempête, il fléchit, il n'est pas déraciné parce qu'il est souple. Et donc, avoir de la souplesse, s'adapter, trouver de nouvelles idées, réfléchir, développer sa créativité pour trouver comment faire face, pour changer. Mais des fois, c'est changer de métier, des fois, c'est changer de mode de vie. Moi, je connais des gens qui se sont dit, bah tiens, avec le confinement, j'étais tellement plus heureux dans la maison de campagne de ma grand-mère, et ben je vais quitter la ville pour essayer de vivre à la campagne. Vous voyez, on peut toujours trouver des nouvelles manières de faire. Ma petite sœur, elle l'a fait il y a 20 ans, elle était malheureuse en ville et elle a décidé de se réadapter. Elle a fait un BTS d'agriculture et elle fait des plantes médicinales dans la Drôme. Elle me dit, je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse. Mais elle a su s'adapter à un changement de vie qui correspondait mieux à ses aspirations personnelles.
Ma génération est née au milieu de ce boom virtuel, donc on en parlait tout à l'heure, téléphone à la main et relié à Internet. Comment a évolué la relation aux autres chez les jeunes aujourd'hui, selon vous ?
Alors, je suis pas un spécialiste des jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en connais. Évidemment, j'ai pas d'enfants, mais j'ai pas mal de neveux et nièces, etc. Il me semble que ce que je perçois, c'est encore une fois ce danger des réseaux sociaux qui fait que la relation passe trop par le virtuel. Et je pense que passer son temps à envoyer à plein à des dizaines ou des centaines de personnes des photos, des petits messages, des machins et trucs, je crois que on est dans une relation où le prisme du coup de l'image, de la posture qu'on se donne est trop important. Et rien ne remplace pour être heureux une qualité réelle de relation. C'est-à-dire un vrai échange avec un ami, il vaut mieux avoir peu d'amis que plein, en fait. Parce que plein, on peut pas cultiver une relation vraie. On est dans, comme on l'a dit, dans la posture, dans l'image, dans, on se nourrit de petits, alors on s'envoie des likes, alors ça nous satisfait sur le moment, mais c'est très superficiel. En fait, rien ne vaut l'étreinte d'un ami qui dit je t'aime, un sourire qui on se dit prends soin de toi, ça a bien plus de valeur quand c'est fait en vrai, dans la relation réelle, que simplement des petits likes, des petits smileys, etc. et tout. Donc c'est pour ça qu'Épicure, hein, qui est ce grand philosophe de l'Antiquité, spécialiste du plaisir et du bonheur, nous dit au fond, il faut aller vers la sobriété. C'est-à-dire, il faut pas avoir trop d'amis. Il faut mieux avoir quelques amis qu'on connaît bien et qui sont un vrai soutien dans notre vie que plein d'amis qu'on voit superficiellement et qui flattent simplement notre ego. Il vaut mieux pas manger trop de nourriture, mais des mets de qualité. Un bon bout de pain, un bon bout de fromage, si c'est de la qualité, ça va nous apporter beaucoup plus, et d'ailleurs pour la santé aussi, que des mets en abondance avec plein de sauces, etc. Souvent, ça va nous faire grossir, nous rendre malades, etc. Donc, aller dans la sobriété. Et malheureusement, c'est pas un discours que les jeunes comprennent beaucoup. Ils ont tendance à penser que la quantité leur apportera le bonheur. C'est pas vrai. C'est la qualité qui apporte le bonheur et pas la quantité.
En quoi cette hyperconnexion, elle peut impacter notre liberté ?
Eh bien, je pense que cette hyperconnexion nous apporte une perte de liberté à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la manipulation dont est l'objet. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation extérieure. Et après, il y a un esclavage intérieur, ça je vais en parler après. La manipulation extérieure, ce sont tous les grands groupes, hein, Google, Facebook, etc., qui manipulent notre cerveau. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on est en addiction avec ces instruments, ces smartphones, ces tablettes, etc. Et du coup, ils vont faire tout pour nous rendre encore plus addicts. Donc, en envoyant en permanence des notifications, enfin, on trouve un système qui fait qu'on est tout le temps rappelé par quelque chose qui nous attire l'attention, etc. Et puis après, ils prennent connaissance de tous nos goûts. Ils voient ce qu'on aime. Ils nous envoient des pubs qui vont correspondre à ce qu'on aime. Donc, on va devenir des consommateurs complètement serviles. On va, sans même s'en rendre compte, de plus en plus être manipulé par tous ces géants du web. La deuxième chose, c'est que on entre dans une addiction intérieure. C'est-à-dire que non seulement on est manipulé par l'extérieur, mais on est manipulé aussi par notre quête permanente d'avoir toujours un petit plaisir immédiat avec cette addiction au web. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes sollicité en permanence par un petit texto, par un WhatsApp, par un machin, par une notification, par un ceci, cela, eh bien en fait, ça vous apporte un plaisir immédiat et ça crée de la dopamine. La dopamine, c'est une substance chimique qu'on a dans le cerveau. Et dès que vous avez un petit plaisir immédiat, ça vous donne de la dopamine et du coup, on devient addict à la dopamine. C'est-à-dire qu'on recherche à créer en permanence cette substance qui nous apporte un petit plaisir immédiat. Le problème, c'est que du coup, c'est sans fin. Il nous faut toujours plus, c'est le toujours plus, comme je disais, la quantité. Il nous faut un maximum de sollicitations dans la journée pour avoir cette dose de dopamine. Or, ça crée vraiment un esclavage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut plus se passer après de tout ça. Et que vous enlevez à un jeune son téléphone portable, tout ça, pendant 3 jours, il devient fou. Parce que d'un coup, après, il peut retrouver un équilibre et un bonheur autrement. Mais il y a une phase, c'est comme un drogué, si vous voulez, c'est une drogue. Et c'est jamais bon de perdre sa liberté. Et donc, perdre sa liberté fait qu'après, on dépend d'un objet, on dépend de l'extérieur en permanence. Donc, on n'est plus du tout autonome dans notre bonheur. On est tout le temps... Et puis, en plus, c'est pas bon pour le cerveau. Le cerveau est beaucoup trop sollicité. On est tout le temps dans le mental. Donc, on dort mal, on est agité, on est anxieux. Tout ça est lié à cette addiction où le cerveau est beaucoup trop sollicité. Et donc, simplement, il faut se limiter. Et donc, la vraie liberté, c'est de se limiter, se dire pas plus de, je dis n'importe quoi, 1 heure par jour de réseaux sociaux, voilà, etc. Faut se limiter. Et se dire, je prends aussi du temps pour moi, où je fais autre chose que d'être en connexion permanente avec le monde entier. Et à ce moment-là, je choisis de me concentrer sur un temps d'amitié, de lecture, de promener dans la nature, etc., mais sans le téléphone. Et on découvre à ce moment-là une vraie liberté, puisqu'on n'a plus cette addiction permanente à la dopamine, et on n'est plus à ce moment-là, on est de moins en moins manipulé par ces géants du web.
Et au-delà de notre rapport au téléphone, Plus largement, pour vous, c'est quoi la liberté? Comment vous la résumeriez?
Ben, je dirais que c'est cette capacité justement de faire un choix qui est maîtrisé par notre raison. C'est-à-dire c'est moi qui décide, c'est pas les autres qui décident pour moi. Et donc la liberté, c'est savoir être capable d'avoir une distance nécessaire pour faire le choix véritable que j'ai envie de faire. Et pas simplement le choix impulsif, compulsif, que mon cerveau va faire parce qu'il va être pris par toutes ses addictions. Donc la liberté, c'est avoir cette distance qui me permet de faire un véritable choix personnel et de pas être pris dans la compulsion de mes habitudes, de mes addictions, etc. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont libres. Parce qu'entre les addictions aux réseaux sociaux, les addictions à la drogue, les addictions à l'alcool, les addictions à être en permanence entouré, etc., on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont libres. Donc la liberté, elle se conquiert. On n'est pas libre, on le devient. On le devient par cette capacité de dire non, de résister et de faire des choix personnels et pas des choix mus par la compulsion. Et du coup, on s'aperçoit que la liberté conduit à l'autonomie. C'est-à-dire, je suis autonome, je ne dépends pas en permanence de tout ce qui est extérieur à moi. Et puis, cette liberté me permet d'être beaucoup plus moi-même, du coup. C'est-à-dire en profondeur, dans mon être profond, et pas dans mon ego superficiel qui a besoin d'être assuré, qui a besoin d'être connu, etc. Mais ça, on pourra en parler pendant des heures, parce que c'est tout le travail spirituel. C'est d'acquérir cette liberté intérieure. La liberté, ce n'est pas que faire ce que je veux. La liberté, c'est faire ce que je veux, mais qui est bon pour moi, que j'ai choisi moi, et qui m'est pas impulsé par l'extérieur, par la société, par les réseaux sociaux, etc. Donc la liberté, c'est un acte éminemment personnel, et ça, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça d'y arriver.
Et quelles sont les clés de la sagesse, selon vous? Est-ce que c'est lié à la liberté?
Bah, les clés de la sagesse, c'est encore une fois, c'est immense comme question. Mais c'est vrai que dans les clés de la sagesse, il y a vivre dans l'instant présent. C'est une des clés de la sagesse, c'est-à-dire être là, ici et maintenant, prendre le temps de vivre, de faire les choses, être dans la qualité des expériences, des relations avec les autres, plutôt que dans la quantité. C'est l'acceptation, c'est dire oui à la vie, c'est lorsque je peux pas changer quelque chose, l'accepter. Mettre l'amour et la bienveillance comme valeur suprême. Parce qu'on s'aperçoit que rien n'est plus important pour être heureux et pour rendre le monde meilleur que d'avoir des qualités de relation avec les autres. Et donc, c'est cultiver l'amour. Mais ça se cultive à travers une vigilance, etc. Donc, voilà, les clés de la sagesse sont nombreuses. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'entrées dans les clés de la sagesse. Mais ça, je l'ai écrit dans plein de livres, notamment. Vous avez cité un ou deux livres, mais je conseille aussi L'âme du monde.
Préféré, il est incroyable.
C'est vrai que c'est un livre où j'ai vraiment voulu développer les clés de la sagesse, notamment pour des jeunes de 15 à 25 ans qui se posent des questions. C'est quoi la vie? Ben, j'essaye de répondre à travers un conte dans ce petit livre qui s'appelle L'âme du monde.
Quelle différence vous faites entre la religion et la spiritualité?
Alors la religion, c'est un phénomène collectif. C'est-à-dire ce sont des individus qui se regroupent pour partager ensemble des croyances et des rituels. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une civilisation qui s'est développée sans religion. C'est la croyance partagée en quelque chose qui nous dépasse et qui nous relie. Ce qui fait que dans toutes les sociétés humaines jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés non religieuses. Mais pendant des millénaires, l'être humain était religieux parce que ça permettait de souder les individus qui ne se connaissent pas au sein d'une même communauté à travers une croyance supérieure, si vous voulez. Donc la religion, c'est croyances partagées au niveau collectif. La spiritualité, c'est plus personnel, c'est plus intime. La spiritualité, c'est l'individu qui se pose la question « Pourquoi je suis sur Terre ?» et qui essaye de s'améliorer en tant qu'être humain, qui recherche le bonheur, qui recherche à être plus vertueux, c'est-à-dire à pratiquer la justice, à être tolérant, etc., à s'améliorer en fait. La spiritualité, c'est un travail sur soi. Personne ne peut le faire à votre place. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a des gens qui sont religieux, et spirituels. Ils pratiquent leur religion, puis à la fois, ils font un travail sur eux-mêmes. Mais vous avez des gens qui sont religieux et pas spirituels du tout. Les gens qui tuent les autres au nom de leur religion, ils sont pas du tout spirituels. Et puis, vous avez des gens qui sont spirituels et pas religieux. C'est-à-dire qu'ils font un travail sur eux, ils grandissent en tant qu'être humain, ils s'améliorent en tant qu'être humain, ils utilisent leur esprit pour ça, le mot spiritualité vient du mot esprit, et en même temps, ils pratiquent aucune religion, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on peut être religieux et spirituel, ou spirituel et non religieux. ou les deux. Enfin, tout est dissociable aujourd'hui, en fait. Alors que pendant très longtemps, les gens étaient à la fois religieux et spirituels, parce qu'on pouvait pas ne pas avoir de religion. Et puis, depuis quelques siècles, de plus en plus, il y a une dissociation entre la spiritualité et la religion. Et c'est vrai que la plupart de mes livres sont plutôt des livres de spiritualité. C'est-à-dire où je dis à l'individu comment être plus heureux, mieux se connaître et s'améliorer en tant qu'être humain.
Fabuleux. J'aurais encore tellement de questions, mais bon, je vais vous en poser une dernière. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces jeunes ? Quels conseils vous voudriez leur donner ?
Ben, je voudrais leur dire de pas désespérer, parce que je sens bien qu'aujourd'hui il y a quand même le sentiment que tout va mal et que on se dit voilà, c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui parce que le monde est compliqué, qu'on voit qu'il y a du terrorisme, qu'il y a des maladies comme le Covid, que on se dit qu'on va pas trouver de boulot, enfin voilà, le monde paraît très compliqué. Et c'est vrai que par rapport aux 30 années précédentes où il y avait quasiment beaucoup plus d'emplois, le monde économique allait beaucoup mieux, le monde politique allait mieux aussi, il n'y avait pas les conflits pendant toute la durée de la guerre froide, en fait, hein. Il n'y avait pas tous ces conflits là, le terrorisme n'était pas encore développé. Et donc, on a le sentiment que c'est vrai, par rapport aux 30 années précédentes, le monde va plus mal. Et en même temps, il faut voir que le monde, globalement, par rapport au passé, si on prend l'histoire longue, va quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que oui, il y a du terrorisme, mais il n'y a plus des guerres mondiales comme on a connu au XXe siècle. Il y a des maladies, mais ça n'a rien à voir avec la peste et le choléra. On a éradiqué les grandes maladies. Donc, le virus, le Covid, il fait des morts, mais beaucoup moins que la peste au Moyen-Âge, qu'on savait absolument pas lutter contre ce genre de maladie. On vit beaucoup plus longtemps. On a la possibilité de choisir notre métier, de choisir notre sexualité. C'est énorme. Il y a encore 50 ans, on pouvait pas choisir sa sexualité. Les homosexuels se cachaient. Ils étaient réprouvés. On pouvait pas choisir son métier. On faisait le métier que nos parents faisaient, etc. Donc, il faut réaliser qu'on a énormément gagné en liberté individuelle, en confort de vie, en soins, etc. Et plutôt que de se plaindre toujours, eh bien, disons, voilà, oui, on a quand même beaucoup de possibilités pour vivre bien. Et il faut aller voyager un peu dans le monde pour se rendre compte qu'il y a des gens qui ont rien du tout, qui sont malades. Vous l'avez fait, et moi aussi, à 20 ans. On a été en Inde, on a vécu avec des gens qui vivaient dans des bidonvilles, qui avaient trois fois rien pour vivre et qui étaient heureux. Ils étaient heureux parce qu'ils étaient dans la solidarité, dans le lien, et qu'ils étaient simplement, ils pouvaient vivre une journée et ils s'émerveillaient simplement que le soleil se lève et d'essayer de passer une journée, même s'ils étaient plutôt dans la survie. En tout cas, ils savouraient chaque instant. Or que nous, il nous faudrait tellement de choses pour être heureux qu'on les a jamais. Et donc, faut apprendre à se satisfaire de peu de choses et découvrir qu'avec très peu de choses, on peut être heureux. Et donc, satisfaisons-nous de ce qu'on a, d'un rayon de soleil, de le sourire d'un ami, d'un bon livre qu'on peut lire, d'une musique qu'on aime. Et tous ces petits plaisirs du quotidien, si on les savoure pleinement, eh bien, finalement, on s'aperçoit que c'est pas la peine de se prendre la tête avec un tas de choses. Plein de petites choses peuvent nous rendre heureux au quotidien et relativisons les choses. On a des problèmes, mais il y a eu bien pire dans le passé, il y a bien pire ailleurs. Et pourtant, les gens qui sont dans le bien pire ailleurs, des fois, arrivent à être très heureux. Ça veut dire que le bonheur, il est en nous. C'est dans le regard qu'on porte sur le monde. Et je voudrais terminer par un petit conte que j'ai mis dans l'âme du monde qui le dit très bien. C'est un homme qui arrive dans une ville et il ne connaît personne. Et donc, il dit à l'homme qui il voit un vieillard à l'entrée de la porte de la ville, il dit, lui doit connaître, il lui dit, dis-moi, vieil homme, comment sont les gens dans cette ville ? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants ? Et le vieillard lui répond, dis-moi, étranger, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? Et l'étranger répond, ah, méchant, très désagréable, etc. Et le vieillard lui dit, bah ici, c'est pareil. Alors le gars s'en va en disant, bah disons, j'ai pas de chance partout où je vais, les gens sont méchants. Et puis arrive un autre étranger, une heure plus tard, qui pose la même question. Le sage lui retourne la question, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? Très agréable, très sympathique. Et le sage lui répond, bah ici, c'est pareil. Alors il y a un marchand de chameaux qui entend la question, c'est un conte soufi, et donc qui lui dit, mais t'es un menteur. Tu dis à un étranger que tous les gens sont méchants dans la ville, et une heure après, tu dis à un autre étranger que tous les gens sont gentils, faudrait savoir. Et le sage lui répond, ça n'a aucune importance, parce que chacun porte le monde dans son regard. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout, un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Voilà, donc je pense que c'est la clé de tout, le bonheur il est à l'intérieur de nous.
Fabuleux, merci beaucoup, on va finir sur ces
merci,
jolis mots.
Merci Victoria, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.